le dimanche matin du 7 août 1966, près de la petite ville d'Everman, au Texas, à quelques kilomètres au sud de Fort Worth, un fermier aperçoit une voiture abandonnée au bord d'une route. Le coffre arrière est entrouvert. En l'ouvrant pour regarder à l'intérieur, il aperçoit les cadavres de deux jeunes garçons. Cette tragique découverte marque le début d'une série de crimes et de procès qui s'échelonneront sur près de trois décennies et qui entraîneront des changements importants dans les lois au Texas. Le lundi 26 octobre 1993 s'ouvre l'un des procès les plus célèbres de l'histoire du Texas. Un meurtrier rebelle affronte l'équipe de procureurs d'une petite ville pour qui ce procès sera l'affaire la plus importante de leur carrière.
Entre la société et cet homme dangereux et violent, il n'y avait que mon équipe de procureurs et d'enquêteurs. On avait donc toute une responsabilité. Il nous fallait bien faire les choses.
Près de 30 ans plus tôt, en 1966, le bureau du shérif d'Everman, au Texas, se rend sur la scène d'un crime crapuleux. Un fermier a découvert les corps de deux jeunes garçons dans le coffre d'une voiture abandonnée. Le shérif est déconcerté devant ces meurtres qui semblent avoir été commis à la manière d'une exécution. Le fermier qui a fait la macabre découverte déclare qu'il connaît les victimes. Les deux garçons, Richard Bond et son cousin Matthew Duncan, ont grandi à Everman. Leurs parents déclarent aux autorités qu'ils les ont vus pour la dernière fois le samedi soir, alors qu'ils partaient rencontrer la petite amie de Richard, Laura Smith, âgée de 17 ans. Les enquêteurs craignent que la jeune fille n'ait été enlevée, ou pire encore. La nouvelle de ce double homicide se propage rapidement. Le matin même, à 160 km de là, dans la petite ville de Rosebud, un jeune homme affolé se rend à la police. Son nom, Roy Dell Green. Il dit avoir des aveux à faire. Green déclare au shérif Brady Pamplin de Rosebud que les trois adolescents ont été enlevés et torturés par une brute du coin qui s'appelle Kenneth McDuff. Ce n'est pas la première fois que le shérif entend ce nom. McDuff a déjà été emprisonné pour cambriolage, vol et voies de fait à l'âge de 17 ans. Aujourd'hui, 25 ans plus tard, le fils du shérif Brady Pamplin, Larry, le shérif de Falls County, qui est maintenant à la retraite, se rappelle le jour où Roy Dell Green est entré dans le bureau de son père alors qu'il n'était lui-même qu'un jeune policier.
Mon père, qui avait fait partie des forces de l'ordre pendant toute sa vie, disait de Kenneth McDuff que c'était sans doute le type le plus violent qu'il eût jamais rencontré.
Green déclare au shérif que McDuff et lui se promenaient sans but en auto dans la petite localité d'Everman quand ils ont aperçu les deux garçons et la jeune fille près d'une voiture garée à côté d'un terrain de baseball. McDuff a alors dit à Green qu'il voulait se trouver une fille pour la violer et la tuer. Il a ajouté que si Green en parlait à quelqu'un, il le tuerait lui aussi. Green raconte que lorsqu'ils sont arrivés près du terrain de baseball, McDuff est descendu de la voiture avec un pistolet en main et qu'il s'est dirigé vers les trois adolescents. Green, lui, attendait dans l'auto. Il ajoute qu'il n'a pas cru que McDuff allait vraiment tuer quelqu'un. Il croyait qu'il ne cherchait qu'à leur faire peur. Les adolescents ont vite compris que McDuff n'entendait pas à rire. Il leur a pris leur portefeuille à la pointe de son arme.
Sous le regard de Green, McDuff a ensuite ordonné aux trois adolescents de monter dans le coffre de leur voiture. Plus tard, quand McDuff a dit à Green qu'il devait tuer les adolescents parce qu'ils avaient vu son visage, Green croyait toujours qu'il plaisantait.
Take the car, drop, follow me.
All right, get the car. All right, where are we going?
Green a joué le jeu.
All right.
McDuff conduisait la voiture des adolescents et Roy Dale Green les suivait au volant de la voiture de ce dernier. Ils ne se sont arrêtés qu'une fois arrivés dans un secteur isolé à l'autre bout de la ville. Finalement, sur une route secondaire sombre, McDuff s'est garé. Il a ouvert le coffre arrière et ordonné au garçon de ne pas bouger. Il a ensuite forcé Laura à descendre de la voiture. Green raconte que McDuff lui a ensuite demandé de faire monter Laura dans le coffre arrière de sa voiture.
That's right.
Les deux garçons ont été abattus de plusieurs projectiles au visage.
Mon père ne s'expliquait pas qu'un type de 21 ans puisse être si cruel et si violent. Il semblait n'avoir aucun sens moral ni remords. Et il avait tué ces deux jeunes garçons en leur tirant dans la tête à plusieurs reprises.
Green raconte que McDuff lui a demandé d'effacer les marques laissées par leurs pneus pendant qu'il essuyait ses propres empreintes digitales sur la voiture des victimes.
McDuff est ensuite monté à bord de sa propre voiture avec Roy Dale Green. La jeune fille était dans le coffre arrière. Ils ont emprunté une route de gravier à Johnson County. À un moment donné, il a arrêté la voiture et il a violé la jeune fille. Ensuite, Green l'a violée à son tour. Puis McDuff l'a violée de nouveau. Ensuite, il l'a étranglée sur la route de gravier pendant que Green lui tenait les chevilles.
Ensuite, selon Green, ils ont jeté le corps par-dessus une clôture et l'ont dissimulé sous des broussailles. Le shérif Pamplin lance alors une importante battue pour retrouver le corps de Laura Smith. Roy Dale Green tente d'aider les policiers, mais il ne connaît pas les environs et ne se rappelle pas où ils ont caché le corps. Au même moment, on lance des recherches pour retrouver Kenneth McDuff. Les enquêteurs ont appris que McDuff devait sortir dans la soirée avec une jeune femme de Bremont. Ils attendent McDuff chez la jeune femme en espérant qu'il se présentera chez elle.
Ça fait plusieurs années, mais si je me souviens bien, il était environ 23h30 quand la situation a dérapé.
Quand il voit les policiers, McDuff essaie de faire marche arrière. Les agents ouvrent alors le feu et tirent sur ses pneus et son radiateur, l'empêchant ainsi de prendre la fuite avec son véhicule. McDuff n'oppose pas de résistance à son arrestation. Après plusieurs jours à chercher le corps de Laura Smith, sa famille peut maintenant mettre sa dépouille en terre. Kenneth McDuff et Roy Dale Green comparaissent devant les tribunaux en octobre 1966. Le premier procès concerne le meurtre de Matthew Duncan.
Les procureurs sont convaincus qu'ils obtiendront la peine de mort pour ce crime. Ils disposent du corps de la victime et de preuves qui établissent un lien entre celle-ci, McDuff, et un témoin oculaire. Charlie Butts, qui était alors procureur, se souvient toutefois que les aveux de Roy Dale Green ne suffisaient pas pour faire reconnaître McDuff coupable de meurtre.
Selon la loi au Texas, on avait alors l'obligation de corroborer les déclarations d'un complice. Et notre témoin était un complice. On devait prouver que ce qu'il avançait était vrai, ou du moins que ça laissait croire que l'accusé était coupable.
Des indices permettent au procureur d'étayer le témoignage de Green. On a trouvé les portefeuilles des victimes dans un champ et la chemise de Kenneth McDuff couverte de sang et à moitié brûlée qu'il avait enterrée sur la propriété de son frère aîné. En échange de son témoignage, les procureurs ont accepté de ne pas faire condamner à mort Roy Dale Green. Mais McDuff, lui, ne pourra conclure aucun marché avec les autorités. Et ça ne semble d'ailleurs pas l'intéresser. En novembre 1966, à Fort Worth, au Texas, Kenneth Allen McDuff, âgé de 21 ans, est accusé du meurtre de Matthew Duncan, 15 ans. Le jury le condamne à la chaise électrique pour ce meurtre gratuit. McDuff ne semble guère touché en entendant le verdict. Après le procès pour le meurtre de Matthew Duncan, les procureurs ne voient pas l'utilité de tenir un procès pour les deux autres homicides, McDuff ayant été condamné à mort. Voici l'auteur Gary Lavergne du Texas qui a écrit un ouvrage sur la carrière criminelle de McDuff intitulé « Bad Boy from Rosebud ».
Les procureurs étaient confiants parce que leur suspect avait été reconnu coupable. Et au Texas, à cette époque, on croyait que rien n'était plus final qu'une peine de mort.
À la prison de Huntsville, au Texas, McDuff est en attente dans le couloir de la mort. La date de son exécution est repoussée une première fois, puis une deuxième fois. En avril 1970, McDuff est toujours dans la vingtaine. Il attend que soit fixée la prochaine date de son exécution, confiant qu'elle sera repoussée une fois de plus. Puis, en 1972, la Cour suprême rend une décision qui fait jurisprudence dans le cas qui oppose un certain Furman et la Géorgie. La Cour a établi que la peine de mort, telle qu'elle est pratiquée, va à l'encontre de la Constitution. Break time. Les minorités et les personnes à faible revenu ne sont pas traitées équitablement devant les tribunaux. Après cette décision, la peine de mort de McDuff est commuée en peine d'emprisonnement à vie. Et selon les lois du Texas de cette époque, cela signifie que l'auteur du triple homicide pourra présenter une demande de libération conditionnelle. 8 ans plus tard, en 1980, McDuff présente sa demande. À cette époque, 3 personnes du comité des libérations conditionnelles se penchent sur le cas de chaque détenu et 2 votes en faveur de la libération suffisent. Le comportement exemplaire de McDuff en prison rallie un membre du comité à sa cause, mais les 2 autres votent contre sa libération. En 1989, au moment où McDuff présente sa nouvelle demande de remise en liberté, son dossier s'ajoute à des centaines d'autres dossiers. Après 15 demandes et autant de refus, Kenneth McDuff obtient finalement, contre toute attente, une réponse favorable à sa demande de libération. Le bureau du shérif de sa ville natale apprend rapidement cette nouvelle. Le shérif Brady Pamplin, qui a arrêté McDuff en 1966 pour le meurtre par balle de 3 adolescents, a pris sa retraite. C'est maintenant son fils, Larry, qui assume le rôle de shérif de Falls County.
Quand j'ai découvert que Kenneth Allen McDuff avait été remis en liberté, la première chose que j'ai faite a été d'appeler le marshal Parnell McNamara à Waco. Parnell et son frère Mike sont tous deux marshals.
On est amis depuis notre enfance. J'ai dit à Parnell, tu ne le croiras pas, ils ont remis Kenneth MacDuff en liberté. J'ignore combien de temps il s'écoulera. 3 jours, 3 semaines ou 3 mois. Mais tôt ou tard, on va retrouver des corps de jeunes femmes ou de jeunes hommes.
Le 11 octobre 1989, Kenneth MacDuff sort de la prison Ramsey sous escorte. Bien qu'il ait été condamné à mort 23 ans plus tôt, il est maintenant un homme libre. Au printemps 1991, il s'inscrit au Collège technique du Texas à Waco et il s'installe dans une résidence sur le campus. Grâce à un programme de réhabilitation sociale, il touche une aide financière. Au cours de l'année qui suit, il rencontre régulièrement son agent de probation. Mais les autorités ne tarderont pas à apprendre que MacDuff est loin d'être réhabilité. Le 1er mars 1992, les policiers de Waco répondent à un appel d'urgence. La caissière d'une épicerie a disparu. Melissa Northrup, âgée de 22 ans, travaillait seule de nuit dans la succursale d'un magasin Quick Pack. Son mari déclare à la police qu'il était au téléphone avec elle quand un client est entré. Il a rappelé quelques minutes plus tard, mais n'a obtenu aucune réponse. Les agents trouvent le sac à main de Melissa sous le comptoir. Sa voiture ne se trouve plus dans l'aire de stationnement. Les policiers de Waco vérifient les voitures près d'un motel non loin de là. L'une d'entre elles n'appartient pas à un client, selon le gérant des lieux. Les enquêteurs y trouvent un portefeuille contenant une carte d'assurance sociale et un permis de conduire. Les deux documents appartiennent à Kenneth MacDuff. Les enquêteurs se mettent à sa recherche au collège, mais personne ne l'a vu depuis quelques semaines. Les étudiants déclarent qu'il consomme d'importantes quantités de drogue et que des prostituées lui rendent régulièrement visite dans sa chambre. Les policiers de Waco sont incapables de retrouver MacDuff, mais ils sont bientôt rappelés au collège. Un étudiant a trouvé un corps nu décomposé au fond d'une fosse peu profonde dans un boisé derrière la résidence de MacDuff. Il ne s'agit pas du corps de Melissa Northrup. C'est une autre victime. MacDuff est en liberté, les enquêteurs doivent agir rapidement. Ils craignent qu'après 23 ans d'interruption, Kenneth MacDuff ne soit reparti sur une lancée meurtrière. Le 25 mars 1992, on a trouvé le corps d'une femme enterrée dans une fosse peu profonde derrière le collège technique du Texas à Waco. On découvre que la victime s'appelle Valencia Kay Joshua. Selon des étudiants, elle a été vue pour la dernière fois sur le campus alors qu'elle cherchait Kenneth MacDuff. Quelques semaines plus tôt, on a trouvé la voiture de Kenneth MacDuff abandonnée près d'un Quick Pack où une autre femme, Melissa Northrup, a été vue pour la dernière fois. Dans les deux cas, on n'a trouvé que des preuves indirectes. Comme MacDuff est introuvable, les enquêteurs du comté demandent l'aide du procureur Bill Johnston.
On se demandait qui l'allait tuer ensuite. Allait-il faire une victime le soir même? On était vraiment persuadés qu'il était sur une lancée meurtrière.
Johnston sait que s'il inculpe MacDuff de crimes qui relèvent des lois fédérales, il pourra tirer profit des ressources de tout l'État pour le retrouver. De plus, il pourra miser sur l'expertise et la compétence des marshals Parnell et Mike McNamara.
Je voulais faire participer Mike et Parnell McNamara à cette enquête. Je les avais vus prendre part à plusieurs chasses à l'homme et je connaissais leurs capacités. Je cherchais un moyen de les intégrer.
C'est par le biais de la consommation de narcotiques de MacDuff que les enquêteurs fédéraux approchent l'affaire. Ils trouvent un jeune homme qui affirme avoir obtenu du LSD de MacDuff. Cette seule information est suffisante pour faire émettre un mandat fédéral pour possession de drogue. On forme ensuite une escouade spéciale. Voici le marshal Mike McNamara.
On a contacté tous les services policiers qu'on a pu rejoindre et en très peu de temps, tous ceux qui étaient situés au centre du Texas se sont joints à cette chasse à l'homme.
Les frères McNamara interrogent d'abord tous ceux qui connaissent McDuff de près ou de loin. Lorsqu'ils tombent sur un certain Alva Hank Worley au motel Temple, ils savent qu'ils tiennent quelque chose. Worley affirme ne rien savoir de l'enlèvement de Melissa Northrup et du meurtre de Valencia K. Joshua.
Worley avait une drôle de façon de répondre à nos questions. Quand on lui a raconté ce que McDuff avait fait en 1966, il n'a pas bronché. Ça ne semblait pas le perturber le moins du monde. En quittant le motel où Worley se trouvait, tous les agents à bord de la voiture étaient d'accord sur le fait que son comportement était suspect.
Quelques semaines plus tard, Worley accepte finalement d'aller au bureau du shérif de Bell County pour y faire une déposition en bonne et due forme. Il déclare ne rien savoir des affaires Northrup et Joshua, mais il dit qu'il dispose d'informations à propos d'une affaire de disparition qui fait l'objet d'une enquête de la police d'Austin.
Hank Worley nous a dit que le soir du 29 décembre 1991, McDuff et lui se trouvaient à Austin lorsqu'ils sont passés devant un lavoto.
McDuff s'est alors garé dans l'un des espaces et a demandé à Worley de l'attendre. Selon Worley, McDuff est descendu et il est allé dans un autre espace où une jeune femme lavait sa voiture. Ensuite, il est revenu vers son véhicule en tenant la jeune femme à la gorge. Worley ajoute que McDuff a violé et tué la jeune femme, mais il déclare qu'il n'a pas participé à ce meurtre. Dans la voiture abandonnée, les policiers d'Austin ont trouvé un sac à main et des cartes d'identité appartenant à la victime, Colin Reed. Les enquêteurs disposent maintenant d'un témoin oculaire. Il s'agit du même genre d'homme que le complice de McDuff qui a permis de mettre le suspect derrière les barreaux 30 ans plus tôt pour le meurtre de trois adolescents. Mais il reste encore à trouver McDuff. Plus de 12 services de police de l'État et du gouvernement fédéral participent à la chasse à l'homme. Quand les policiers arrivent à la conclusion que McDuff a peut-être quitté le Texas, les recherches se poursuivent à l'échelle du pays. Tous les médias, notamment les chaînes de télévision importantes, diffusent des informations sur le fugitif. On met sur pied une ligne téléphonique spéciale. Le 3 mai, les policiers reçoivent un tuyau.
Un conducteur de camion à ordures de Kansas City nous a appelés. Il croyait que McDuff travaillait avec lui. On s'est dit que c'était impossible. Kansas City. C'était comme s'il nous avait dit que McDuff était sur la Lune, tellement on était convaincus qu'il resterait dans des endroits familiers.
L'homme déclare qu'un autre conducteur du nom de Richard Fowler ressemble à McDuff. Par chance, ce Fowler a déjà été arrêté pour racolage à Kansas City et les policiers disposent de l'empreinte digitale de son index. Grâce à une analyse, on constate qu'il s'agit de l'empreinte de Kenneth McDuff. À 13h30, le lundi 4 mai, McDuff, qui se fait maintenant appeler Richard Fowler, se rend au dépotoir de Kansas City au volant de son camion à ordures. Les policiers qui se font passer pour des inspecteurs l'obligent à se ranger pour ce qu'ils croient être une inspection de routine. McDuff descend de son camion avec son carnet de route. Il est trop surpris pour prendre la fuite quand on lui passe des menottes. Kenneth McDuff est reconduit au Texas sous bonne garde. C'est maintenant au tour des procureurs de s'assurer que McDuff ne pourra plus jamais marcher librement dans les rues du Texas. Le corps de Melissa Northrup, la caissière du Quick Pack, a été trouvé depuis peu dans une carrière abandonnée de Dallas County. Sa voiture était enlisée dans un boisé non loin de là.
Le corps de Colleen Reed, la femme enlevée au Lavoto, n'a toujours pas été retrouvé. Les procureurs disposent d'un témoin, mais sans cadavre, il leur sera difficile de prouver qu'un meurtre a été commis. Pour l'homicide de Valencia Joshua, il n'y a aucun témoin ni preuve matérielle qui incrimine McDuff. John Sigrist, le procureur de McLennan County, décide de faire d'abord comparaître McDuff pour le meurtre de Melissa Northrup.
Notre stratégie consistait à montrer le plus de liens possibles entre la victime et lui. La scène du crime, l'endroit où le corps avait été trouvé et le mobile du crime. On voulait trouver le plus de liens possibles en espérant que notre dossier serait assez solide. Et que les circonstances étaient assez claires pour que le jury puisse affirmer, hors de tout doute raisonnable, que cet homme était l'auteur de ce crime.
Le procureur adjoint et expert judiciaire Crawford Lang va présenter le peu d'indices matériels dont il dispose et les schémas de comportement de McDuff pour montrer au jury qu'il s'agit d'un meurtrier.
Le jury aime entendre un témoin dire « J'ai vu ce type commettre le crime. J'ai vu le prévenu tuer cette personne. » Mais dans un cas qui repose sur des preuves indirectes, on ne peut pas présenter de témoin. On ne peut donner au jury que des fragments de preuves qui, lorsqu'ils sont mis tous ensemble, démontrent que le prévenu est le meurtrier.
Le procureur adjoint Freeman compte faire appeler les complices de McDuff à la barre afin qu'il raconte ce qu'il a fait le jour du meurtre et qu'il décrive son comportement violent.
Généralement, on ne peut pas invoquer le caractère de l'accusé comme élément de preuve. Mais au Texas, la loi nous permet de le faire pour établir le mobile du crime ou l'identité du criminel. C'était une cause dont tous les éléments reposaient les uns sur les autres, comme dans un jeu de dominos.
Et ces dominos sont posés tout autour d'un homme qui sait comment effacer ses traces. Même son ami a affirmé que McDuff est conscient qu'un seul de ses cheveux pourrait l'envoyer en prison. Il a pris un soin minutieux à effacer ses empreintes digitales. Mais heureusement, aucune scène de crime n'est totalement dépourvue d'indices. En outre, on a trouvé des cheveux dans la voiture abandonnée de Melissa Northrup. On les soumet à des analyses d'ADN. Malheureusement, une partie des échantillons est contaminée par le labo qui pratique les analyses. Par conséquent, les procureurs ne peuvent présenter aucune preuve génétique en cours. Les procureurs d'une petite localité devront prouver à un jury de Houston que c'est McDuff et seulement lui qui a tué Melissa Northrup. Mais sans témoin et aucun résultat d'analyse concluant, les avocats du prévenu pourront facilement convaincre le jury de l'innocence de leur client. Les procureurs ne disposent d'aucune preuve formelle de l'implication de Kenneth McDuff dans le meurtre de Melissa Northrup. Le procès de Kenneth McDuff pour le meurtre de Melissa Northrup s'ouvre à Houston en février 1993.
All rise. Court of the Honorable Judge Hagedorn is now in session.
Thank you. Le procureur fait sa déclaration préliminaire aux 12 membres du jury. Il commence par faire un compte-rendu détaillé des événements qui ont mené à l'enlèvement puis au meurtre de Melissa Northrup. Il raconte comment la voiture de McDuff est tombée en panne à Waco, près de l'autoroute 35 et du New Road Inn. Comment le prévenu a passé la journée à tenter de se procurer du crack, et il fait état de ce que McDuff a dit à son ami, à savoir qu'il voulait se trouver une femme. Le procureur ajoute qu'un peu avant 4 heures du matin, McDuff est descendu de sa voiture garée au motel New Road Inn. Il n'y avait alors aucun témoin, mais le procureur a mis au point un scénario selon lequel McDuff aurait marché jusqu'au Quick Pack. Les procureurs vont montrer que McDuff a brièvement travaillé lui-même dans une autre succursale de cette épicerie et qu'il sait comment se passent les choses dans ce commerce. Par exemple, qu'il n'y a aucune caméra de surveillance. Il sait que l'employé de nuit travaille seul. Il sait aussi que la caisse contient de l'argent liquide.
Sure. Come on around.
Et il n'a laissé aucun indice de sa présence, pas même une seule empreinte digitale. Le procureur déclare au jury que la voiture de Melissa Northrup a été trouvée près de Dallas quelques jours après sa disparition. Un peu plus tard, deux pêcheurs ont trouvé son corps flottant dans un lac au fond d'une carrière de gravier. Ses mains et ses pieds étaient ligotés à l'aide de lacets de chaussures. Il n'y avait aucune empreinte digitale et aucun objet personnel sur la scène du crime, mis à part quelques cheveux. La stratégie de la poursuite comprend deux volets. Pour consolider leur dossier basé sur des preuves indirectes, les procureurs doivent reconstituer les faits et gestes de Kenneth McDuff le jour et le soir de la disparition de Northrup. Ensuite, ils doivent montrer que le prévenu a des comportements violents. Dans l'espoir d'établir que McDuff est un homme violent, au comportement imprévisible, les procureurs interrogent ses complices à la barre. Il y a toutefois un problème. Ces témoins ont tous des dossiers criminels pour consommation de drogue, prostitution, entre autres crimes. Les procureurs doivent convaincre le jury que ces témoins sont crédibles. Et pour que leurs témoins clés prennent la barre, les procureurs doivent convaincre le juge de l'autoriser à témoigner. Le juge demande au jury de sortir de la salle d'audience avant d'écouter l'argument de la poursuite pour faire appeler Alva Hank Worley à la barre. Worley a été témoin de l'enlèvement et du meurtre de Colin Reed. Les procureurs veulent le faire témoigner pour montrer les liens entre l'affaire Reed et Northrup, c'est-à-dire comment le prévenu part à la chasse pour trouver ses victimes, les capture, les torture et cache ensuite leur corps.
On a pu démontrer au juge qu'il y avait, selon nous, 22 éléments qui pouvaient s'appliquer dans l'affaire Northrup. Le juge était d'accord sur 15 de ces éléments caractéristiques. Par exemple, que les deux victimes étaient jeunes, qu'elles avaient la peau blanche et qu'elles étaient toutes deux petites et pesaient environ 45 kilos. Dans les deux cas, elles avaient laissé leur sac à main derrière elles et les crimes avaient été commis le long de l'autoroute 35.
Bien que l'affaire Colin Reed n'ait pas encore fait l'objet d'un procès, le juge statue que Hank Worley, le témoin du présumé enlèvement de Reed au lavoto et du meurtre présumé, pourra témoigner en cour pour dire ce qu'il a vu. Selon la loi au Texas, quelqu'un peut témoigner pour montrer le modus operandi, la façon de procéder du prévenu. Maintenant, la poursuite va pouvoir expliquer au jury comment McDuff a enlevé puis tué ses victimes.
What in particular did Mr. McDuff say?
He said he was going to take himself a girl that night.
Les amis de McDuff avaient souvent l'esprit un peu lent. McDuff choisissait ce genre de type parce qu'avec eux, il se sentait supérieur. Il n'avait toutefois pas réalisé que ces types avaient une conscience et qu'ils pouvaient aisément craquer sous la pression.
Worley déclare que McDuff aime parler de sa façon d'enlever des femmes et il ajoute qu'il l'a vu enlever Colin Reed au lavoto à Austin.
He got out of the car and he walked around the wall and he grabbed the girl by the throat and then he brought her back over to the car.
What did he intend to do with her?
Well, he said that he was going to get rid of her. Use her up or get rid of her.
Worley déclare que McDuff a ligoté les mains et les pieds de sa victime avec des lacets exactement comme ceux qu'on a trouvés sur Melissa Northrup.
Yes, sir.
N'ayant pas réussi à empêcher Worley de livrer un témoignage aussi accablant, la défense n'a plus qu'une solution, jeter le discrédit sur ce témoin. Les avocats de McDuff attaquent Worley avec véhémence et affirment qu'il est un menteur et un violeur.
In fact, you stated at one time, I tried to untie her. I told her I would try to help her. She wanted me to stay back there with her because she knew I would not hurt her.
That's right.
And you helped her by raping her. Isn't that correct?
I did not rape her.
Are you telling the jury that she voluntarily had sex with you?
She knew that I wasn't going to hurt her. So long as I was back there with her, I wasn't going to hurt her.
Les attaques de la défense sur Worley donnent un rude coup à la poursuite. De plus, il y a un autre point faible dans le dossier des procureurs. Personne n'a jamais vu McDuff se rendre à la carrière de gravier de Conbine, où l'on a trouvé le corps de Melissa Northrup. Mais c'est alors qu'un témoin surprise se manifeste.
On m'a remis une note de mon enquêteur qui disait avoir reçu un appel d'une jeune femme de Dallas County qui vivait près de la carrière de gravier où l'on avait retrouvé le corps de Melissa Northrup. Elle voulait nous parler.
Sherry Robinson déclare que le 2 mars, 36 heures après l'enlèvement de Melissa Northrup dans un quick-pack, un McDuff sale et hirsute s'est présenté tard le soir chez elle et lui a demandé de quoi manger.
I heard a light tap at the door, and I opened the door and I stood there. And he said he was hungry, and him and his old lady had just gotten into an argument. And you know, he asked me if I had a sandwich. I don't have a sandwich. I have a bowl of beans.
That'd be fine.
Okay. Well, I got the bowl of beans and I gave it to him, and he went on his way.
De par son témoignage, Robinson montre que McDuff ne se trouvait qu'à 3 km de l'endroit où l'on a trouvé le corps de Northrup. Ébranlé par le témoignage de Robinson, McDuff demande à raconter sa propre version des faits. Même si ses avocats lui déconseillent de témoigner, McDuff est sûr de pouvoir convaincre le jury de son innocence. Son avocat est si contrarié qu'il demande au juge de le démettre de ses fonctions, mais le juge rejette sa demande.
On espérait que McDuff commette l'erreur de venir à la barre. Le juge l'a même rencontré dans son bureau pour lui déconseiller de témoigner.
McDuff vient à la barre. Il croit qu'il a seulement besoin de donner sa version des faits pour que le jury constate qu'il est innocent. En dépit des avertissements de ses avocats et du juge, McDuff vint à la barre pour clamer son innocence.
Mr. McDuff, did you on March 1st, 1992, abduct and murder Miss Melissa Ann Northrup?
No, I had nothing to do with that. On Saturday, I went out and I bought some beer and I was already...
McDuff commence à raconter sa journée le jour du meurtre. Il laisse à peine la chance à son avocat d'intervenir.
I was already starting to drink.
Before we get into that...
Why don't you let me finish this, okay?
No, I want to ask you another question.
It was Saturday night, I bought the beer and...
McDuff déclare que le fait que sa voiture soit tombée en panne au New Road Inn n'est qu'une coïncidence. Il dit qu'il a passé les premières heures du matin à pousser sa voiture à l'aide d'une autre voiture au motel. Il affirme qu'il est retourné à sa résidence sur le campus du collège technique vers 5 heures du matin et qu'il s'est endormi. Il ajoute qu'il ne s'est pas montré le lendemain parce qu'il craignait que son agent de probation ne lui impose des sanctions en raison de sa consommation de drogue. Le procureur a enfin la chance d'interroger McDuff. Il lui demande s'il a enlevé Northrup au Quick Pack, puis s'il a utilisé sa voiture pour laisser la victime à 160 km au nord de Waco, et si, finalement, il a abandonné la voiture de la jeune femme près de la carrière où l'on a trouvé son corps.
Well, if it would have been me, I wouldn't have drove that car that far if I was going to commit. I mean, it just don't make sense to me.
So, what you're telling the jury, it's your tough luck that you happened to be at the very place where Melissa Northrup was kidnapped, at the time she was kidnapped.
Look, I think the facts show that I was there after that event. I had to push that car for 45 minutes, okay? If I had walked from where my car broke down to the Quick Pack and then walked back again, I mean, we're talking about a whole lot of time here.
Le procureur n'a pas d'autres questions. Pour la première fois, McDuff a reconnu être allé au Quick Pack. Il était tellement pris par son histoire qu'il a transmis des informations incriminantes par inadvertance. L'avocat de la défense déclare au jury que ce procès a peu à voir avec la loi ou les preuves. Il repose plutôt sur la peur, la haine et la volonté de l'État de montrer le prévenu sous un mauvais jour. Dans sa plaidoirie finale, le procureur de l'État soutient que la violence du prévenu est manifeste. Les preuves montrent clairement que le prévenu est dangereux, qu'il sort après la tombée de la nuit pour enlever d'innocentes personnes. Le jury ne délibère que pendant 3 heures.
McDuff correspondait à la définition qu'ont la plupart des gens du vrai sociopathe. Il n'affichait aucune émotion, sauf de la haine.
Except anger.
Kenneth McDuff, this court finds you guilty of the kidnapping and murder of Melissa Northrup. This court is adjourned.
Il n'a montré aucune émotion. Un des procureurs du procès de 1966 a décrit son regard. Il disait que ses yeux étaient vides et noirs, comme ceux d'un requin.
Pour l'enlèvement et le meurtre de Melissa Northrup, McDuff est condamné à la peine de mort. Confiant qu'ils peuvent de nouveau remporter leur cause, les procureurs font accuser McDuff du meurtre de Colleen Reed. Une fois de plus, on reconnaît le prévenu coupable et on lui impose une peine de mort. Les habitants du Texas sont choqués en apprenant que le comité des libérations conditionnelles a remis McDuff en liberté alors qu'il purgeait une peine d'emprisonnement à vie. Cette affaire pousse les électeurs du Texas à financer un programme de 2 millions de dollars pour la construction de nouvelles prisons. Le gouverneur de l'époque, Ann Richards, mène de front plusieurs projets de réforme qui deviennent bientôt connus sous le nom des lois McDuff. On établit notamment que la peine d'incarcération minimale à vie sera de 45 ans avant de pouvoir présenter une demande de libération conditionnelle. L'assistant du procureur fédéral Bill Johnston se concentre sur de nouveaux cas, mais il garde toujours en mémoire les éléments du cas McDuff qui n'ont jamais été résolus. Les corps de Colleen Reed et de 2 autres victimes n'ont jamais été retrouvés.
Son exécution était prévue 1 mois ou 2 plus tard, quand on a décidé de tenter une dernière chose.
McDuff a déclaré à un visiteur qui vient le voir régulièrement qu'il a tué 2 autres femmes en plus de Colleen Reed et Melissa Northrup. Il lui a dit où il avait caché le corps de ces 2 femmes, mais pour une raison inconnue, il a toujours refusé de parler de Colleen Reed.
Il ne voulait pas parler. Il disait qu'on n'aurait plus besoin de lui. Ce type allait être exécuté 3 semaines plus tard. Je ne comprenais pas trop pourquoi il croyait qu'on avait encore besoin de lui.
Les dirigeants de la prison proposent alors un marché à McDuff. Quoi qu'ils disent, il ne sera pas traité différemment, ni mieux ni plus mal. McDuff parle alors d'un endroit isolé au bord de la rivière Brazos. Malheureusement, malgré les indices de McDuff, les enquêteurs ne trouvent rien. Les dirigeants de la prison décident alors, dans une ultime tentative, de conduire McDuff menotté au bord de la rivière en question.
Je n'aimais pas qu'il soit si intimement mêlé à l'enquête. Je ne voulais pas qu'il ait cette satisfaction. Mais on n'avait pas le choix, on ne pouvait pas faire ses recherches sans lui.
Une fois arrivé sur les lieux, McDuff indique aux enquêteurs où chercher la fosse de Colleen Reed. On retrouve finalement la dépouille de Colleen Reed. Le jour fatidique, soit le 17 novembre 1998, on fait une injection létale à Kenneth McDuff.
Ses derniers mots ont été « Libérez-moi ». Et cela résume la vie meurtrière de Kenneth Allen McDuff. Jusqu'à la fin, il a pensé que c'était lui la victime. Il se voyait comme un opprimé.
Kenneth Allen McDuff tuait et disposait de ses victimes avec une précision meurtrière. Il préméditait soigneusement ses crimes. Quand les enquêteurs ont trouvé la fosse où gisaient Valencia et Joshua, ils ont trouvé une autre fosse non loin de là, mais cette dernière était vide. Heureusement, Macduff a été arrêté avant de trouver une autre victime.